Il y a chez les animaux certains comportements qui m'intriguent. Vous le savez, les animaux forment des sociétés plus ou moins complexes, et ils sont même parfois très intelligents. Mais sont-ils cultivés? Et la culture est-elle le propre de l'humain?
Pas du tout. On a même vu que certaines mouches peuvent se transmettre des cultures de comment est-ce qu'ils choisissent, quel est le bon partenaire pour se reproduire. Après, on sait par exemple que les baleines aussi se transmettent des chants de manière culturelle, des chants incroyables. Ces chants sont appris les uns par les autres et de manière géographique, c'est vraiment dans la communauté, tout le monde chante de la même manière. Et des fois, il y a un nouveau qui arrive avec un autre type de chant et ça va transformer des fois le chant, le modifier. Plus on regarde chez différentes espèces, plus on trouve en fait des comportements qui sont acquis de manière sociale.
Microscience, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microscience, le podcast qui transforme nos petites questions sur la culture en grandes réponses scientifiques et peut-être un peu anthropomorphique quand même. C'est Erika van de Waal qui va nous familiariser avec la culture animale. Elle est professeure assistante au département d'écologie et d'évolution à l'Université de Lausanne. Elle dirige aussi l'INCAVU, Vervet Project, en Afrique du Sud. Et chez les singes, un début de culture peut ressembler à ça. C'est un cri qui a une fonction bien particulière. Il signale la présence d'un léopard. Et quand il y a un serpent dans le coin, ça ressemble à ça.
Alors moi j'étudie les singes vervets, qui sont des petits singes africains, qui sont dans la grande famille des macaques, pour un singe que tout le monde sait quelle tête il a. Ils sont beaucoup plus beaux les vervets.
Vervets. Oh, c'est vrai qu'ils sont mignons.
Ils ont la peau foncée et ils ont les poils qui sont entre le gris et le blanc, mais ils ont vraiment un visage. Donc ils ont une bonne partie sans poils. Et là, ils ont des décolorations souvent autour des yeux qui leur font avec, en tout cas, les paupières roses, mais il y en a qui en ont plus. Et ça leur fait vraiment des visages distinctifs.
Un peu comme nous, sauf qu'ils ont l'air d'avoir un pelage très soyeux et qui gonfle un peu en hiver. Et en gros, ça ressemble à une peluche sur un arbre, mais une peluche qui bouge.
Bon, c'est pour ça qu'on les étudie, c'est qu'ils sont semi-terrestres, qui passent beaucoup de temps au sol. Ce qui fait qu'en tant qu'observateur, on peut vraiment se balader au milieu d'eux et voir tous les comportements de près. Nous, après, on essaye de les observer sans trop interférer. Après, bien sûr, avec nos expériences, on interfère un peu, avec nos captures, on interfère un peu. On a des cris juste pour dire « c'est nous, on vous suit ». On fait juste un claquement de langue, un petit... quand on s'approche d'eux, juste pour qu'ils sachent que c'est nous. Et ça a aidé à les habituer à notre présence, parce qu'on est dans une réserve privée où ils connaissaient les humains, soit en chasseurs, soit en braconniers. Donc ça leur a mis longtemps à nous faire confiance. Et puis après, on fait un autre cri quand on leur dit, on va faire une expérience pour les attirer. Donc on fait un... Et ça, alors ils savent que ça veut dire nourriture, puis eux, ils font leur cri de nourriture à côté, quand nous, ils nous répondent avec leur cri de nourriture, et puis ils viennent tous voir qu'est-ce qu'on leur amène. C'est des groupes d'une trentaine d'individus. Nos plus petits groupes sont à peine une dizaine. On a des groupes maintenant qui dépassent les 60 individus aussi.
Ah, ça fait quand même pas mal de peluches.
La spécificité du projet, c'est qu'on étudie 6 groupes voisins. Donc plus que 200 individus. Ce qui fait que justement, on peut regarder à quel point les groupes ont des comportements différents les uns des autres. Bien sûr, ils partagent le même environnement, leur territoire se chevauche, donc ils ont, écologiquement, ils ont les mêmes challenges au quotidien pour se nourrir, éviter les prédateurs, défendre leur territoire des voisins. Mais on voit qu'ils se comportent différemment les uns des autres.
Si les groupes de singes se comportent différemment alors qu'ils partagent un même environnement, ça veut dire qu'ils ont des cultures différentes. Les animaux seraient donc cultivés. Pourtant, on imagine toujours que la culture, c'est le propre de l'humain. Mais au fond, c'est quoi la culture chez l'humain?
D'un point de vue humain, je crois pas que je suis la bonne personne à qui demander. C'est des très longues définitions qui prennent en compte des idéaux, des croyances, plein de choses qu'on sait pas vraiment en tant que biologiste comment mesurer chez d'autres espèces. Donc c'est vrai que nous, quand on parle de culture, on la définit tout le temps en tant que biologiste.
Et pour les biologistes, la culture chez les animaux, c'est...
des comportements qui sont typiques au sein d'un groupe, qui sont partagés par tous les membres de la communauté. Et ce qui est très important, c'est qu'ils reposent sur des informations qui sont transmises à tout le monde et que ça perdure sur le temps.
Et ces comportements ne sont pas tous inscrits dans nos gènes?
Il y a des comportements qui sont innés chez toutes les espèces, et nous aussi, hein. Un bébé qu'on sent sans apport, il va se mettre à pleurer quand il a faim, alors qu'il n'a pas vu un bébé à côté, à la maternité, en train de pleurer. Donc voilà. Mais après, il y a des comportements souvent qui sont plus complexes, qui sont vraiment appris socialement.
Et l'apprentissage social est considéré comme une base de la culture. Une culture, c'est quelque chose qui se transmet. Mais à quoi peut bien servir une culture chez des peluches qui savent grimper sur un arbre?
Un orang-outan qui vit plus que 50 ans, si son environnement change, il faut qu'il s'adapte avec ses comportements pour survivre. Et là, d'apprendre de soit ce que font les autres, soit essayer d'innover des nouveaux comportements, trouver des nouvelles ressources, c'est le seul moyen de s'adapter. Donc ça a vraiment un côté bénéfice pour l'individu, mais après aussi pour l'espèce, de pouvoir se transmettre ses comportements.
La culture chez les animaux aussi est une question de survie, en particulier en matière de nourriture. Ces petits singes sont omnivores, mais ils doivent connaître leur milieu.
Dans la savane, il y a aussi des choses qui sont vraiment dangereuses. Il y a des plantes toxiques, et du coup, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut manger, qu'est-ce qu'on peut pas manger. Après aussi, dans les insectes, il y en a beaucoup qui ont certains vers qui ont des poils urticants. Donc, il faut les rouler, les tirer un peu les poils avant de les manger. Il y a différentes choses dans leur nourriture qui nécessitent d'être apprises.
Il y a un savoir culinaire qui se transmet. Et curieusement, selon les groupes de vervets, on ne mange pas toujours la même chose.
En fait, ils ont des préférences. Par exemple, ils ont le même type d'arbres fruitiers. On a cartographié tous les arbres fruitiers dans les différents territoires. Donc, bien sûr, ça varie. Bien sûr, on peut avoir un arbre, mais il peut ne pas être en fruit. Donc, on a fait toute la phénologie pour vraiment se rendre compte qu'est-ce qui était disponible comme nourriture, à quelle période. Et on se rend compte que certains groupes, alors qu'ils ont les mêmes fruits disponibles que les voisins, on mange presque pas ou beaucoup plus d'une autre espèce. Et donc, on voit ce côté.
Les repas sont donc différents selon le groupe auquel on appartient.
Il y a un groupe qu'on appelle le love group. Donc, on leur amène aussi de la nourriture. Donc, si on leur amène une grosse boîte remplie de maïs, on aura 20 singes en train de manger tranquillement, tous ensemble, sans se disputer. Alors que dans d'autres groupes, on amène la même boîte, la même quantité, et ce sera un individu après l'autre. Les femelles dominantes vont tolérer leurs propres enfants, mais pas leurs sœurs. Des conflits les uns après les autres, et une hiérarchie très marquée. Donc même juste spatialement, ils se tolèrent. Ça, c'est déjà, ça varie. Mais après, c'est aussi, est-ce qu'ils redirigent les conflits vers un autre individu, ou est-ce qu'ils vont se réconcilier après un conflit, ou est-ce qu'ils vont aller se consoler vers quelqu'un de leur famille?
Oh, viens là que je te fasse un câlin.
Le toilettage, c'est vraiment le moyen de faire des liens chez les primates. Donc c'est comme ça, nous on va aller prendre un café et discuter. Eux, ils vont se présenter vers l'individu avec qui ils veulent faire du lien et voir si l'autre a le temps de leur faire du toilettage. Et ça permet vraiment de créer des amitiés qu'on voit sur le long terme entre certains individus. C'est vraiment aussi les dominants qui reçoivent beaucoup plus du toilettage des autres, mais c'est souvent échangé. Donc c'est pour être toléré après à une source de nourriture, ou c'est pour avoir du support lors d'un conflit. Donc en toilettant le chef, après on y gagne. Donc il y a beaucoup de choses stratégiques comme ça, mais on voit qu'elles s'expriment pas de la même manière d'un groupe à l'autre.
Il y a bien des cultures spécifiques dans chaque groupe. Et les groupes, ils se mélangent?
Les mâles, quand ils ont l'âge de se reproduire, ils changent de groupe. Tout le monde leur fait comprendre, mais surtout leur maman, qu'ils doivent aller voir ailleurs. Donc c'est vraiment pour éviter de se reproduire avec leur famille. Mais ce qui est spécifique à cette espèce, c'est qu'ils ne le font pas qu'une seule fois. Dans beaucoup d'espèces, les individus migrent une fois et ils restent après. Et là, c'est les mâles dans cette espèce, ils migrent plusieurs fois. Donc ça fait des groupes assez fluides, ce qui fait aussi qu'il peut y avoir des échanges de connaissances entre les groupes.
Mais alors, qui transmet la culture dans tout ce beau monde?
Ça dépend de justement quel type de culture. Donc il semblerait que pour ce qui est de la nourriture, c'est vraiment la maman. Donc la première année de vie, l'enfant apprend vraiment, elle est très proche de sa mère et apprend vraiment de sa mère quoi manger et comment se comporter. Après, il semblerait que les juvéniles regardent de manière un peu plus large, qui est compétent dans leur groupe, parce qu'il y en a peut-être certains qui savent faire des choses que leur maman ne fait pas. Ils élargissent, en fait, les modèles potentiels de qui apprendre. Avec nos recherches, on s'est rendu compte qu'en fait, les migrants apprennent de leur nouveau groupe, mais aussi que le groupe peut apprendre des migrants s'ils ont une innovation que le groupe ne connaît pas.
Une innovation ? Comment on sait qu'ils innovent ?
Alors nous, on le teste de manière expérimentale pour être sûr que c'est nouveau. Parce que le problème, c'est qu'on n'est pas tout le temps là à les observer. Donc qui a fait quelque chose en premier, comment ça se transmet, c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de chance de voir une innovation juste en observation. Et donc nous, on amène soit de la nouvelle nourriture et voir qui innove, comment ça se transmet au sein du groupe.
Et oui, ça tourne toujours autour de la bouffe. L'équipe d'Erika Van de Waal a entraîné les groupes de singes avec du maïs de deux couleurs, rose et bleu. Certains groupes ont reçu du maïs rose, normal, au bon goût, qu'ils adorent, et du maïs bleu avec un goût amer, pas bon. Pour d'autres groupes, les couleurs ont été inversées. Après une phase d'entraînement, Erika Van de Waal et ses collègues ont vu que tous les bébés ont appris de leur maman quelle couleur de maïs manger. Ils retiennent que la couleur de maïs est liée à un goût amer. Et même quand on leur propose cette couleur de maïs sans qu'il soit amer, ils refusent d'y toucher. La mode, l'habitude du maïs bleu ou rose persiste donc dans le groupe et se transmet au fil des générations.
Mais ce qui était plus intéressant, c'était à la période des amours, donc c'est quand les mâles changent de groupe qu'on a fait cette expérience. Et on a eu la chance d'avoir 10 mâles qui étaient entraînés dans un groupe, qui sont entrés dans un groupe entraîné de l'autre couleur. Et donc pour la première fois, on pouvait vraiment tester l'apprentissage individuel versus apprentissage social et voir qu'est-ce qu'il emporte. Parce que bien sûr, le mâle, il a appris le rose est bon, le bleu, il est vraiment à éviter. Il arrive dans un groupe, tout le monde mange l'opposé. Est-ce qu'il garde son habitude ? Et du coup, là, on a eu juste une exception, mais 9 mâles qui se sont conformés et qui ont mangé la couleur du groupe. Et donc, on était les premiers à trouver de la conformité, qu'on pensait être quelque chose de vraiment très humain, en fait.
Les vervets sont donc des conformistes et ils se plient plus ou moins aux normes sociales et culturelles en vigueur. Et mieux, ils sont prêts à apprendre des autres.
Voilà, et remettre en question ses propres connaissances. Et donc, on pensait que la conformité, c'était vraiment par rapport à de l'information, que c'est peut-être en changeant de groupe, on arrive quand même dans un territoire un peu différent, il faut s'informer de qu'est-ce qui est bon de manger là. Mais ce serait peut-être la conformité pour des raisons sociales. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à tester. Parce que beaucoup de collègues disent déjà qu'ils apprennent autant socialement, mais c'est forcément que pour de l'information. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, que le côté social est très important et que ce serait plus... c'est pas pour apprendre des nouvelles informations, mais c'est pour faire comme les autres. Et plus on fait comme les autres, il y a plus d'expériences qui le montrent chez les primates, plus on se comporte comme un autre, plus les liens d'amitié se développent et plus on est apprécié par l'autre. Donc, le fait de manger comme les autres pourrait être une stratégie comme une autre pour se faire accepter par le groupe. Mais ce côté de conformité sociale, c'est encore plus réservé à l'humain que la conformité pour l'information. Mais j'ai des idées d'expérience pour le tester, ça n'a pas encore marché.
La culture culinaire serait une forme de ciment social. Mais que faut-il dans le cerveau pour pouvoir avoir une forme de culture ?
Moi, j'aime bien dire qu'il y a ce côté de durer dans le temps. Bien sûr, ça nécessite un cerveau qui peut mémoriser ce qu'il a acquis et le réutiliser, même si c'est des ressources, par exemple, qui sont qu'une fois par année disponibles, ou même il y a des choses qui sont plus cycliques, pouvoir se rappeler de choses des années après qu'ils ont appris des autres, et puis le transmettre aux autres générations et que ça perdure sur le temps. Donc, ça nécessite un cerveau qui peut mémoriser ce qu'il a acquis socialement.
Difficile donc de savoir ce qui se passe derrière les petits yeux entourés de roses des singes vervets. Mais le fait est qu'ils arrivent quand même à échanger des informations entre eux. Et la communication est fondamentale quand on vit en groupe.
Même dans la façon de faire de vocaliser, donc de faire des cris, on se rend compte qu'il y a des signatures de groupe. Et là, les singes verveilles, ils sont très connus depuis de nombreuses années pour leurs cris d'alarme. Donc, ils ont des cris d'alarme spécifiques aux différents types de prédateurs. Et du coup, chaque cri va faire une réponse du groupe bien, bien spécifique. Donc, après un cri pour prédateurs terrestres, et surtout, on peut l'appeler aussi cri léopard, ils vont tous grimper dans un arbre et se mettre dans une partie dense. Pour un cri d'aigle, là, ils vont descendre de l'arbre et se mettre à un autre endroit où ils ne peuvent pas facilement être attrapés. Puis après, il y a le cri serpent. Donc là, chacun se bloque sur place et regarde celui qui crie pour voir où il regarde. Parce que bien sûr, un serpent, c'est très cryptique et c'est pas facile à trouver. Donc tout le monde tourne la tête vers celui qui crie et puis regarde le regard de celui qui crie pour essayer de voir où est le serpent. Donc ils ont vraiment cette manière-là. Mais ça, c'est des cris qui semblent assez innés, parce qu'on les retrouve chez les vervets à travers l'Afrique. Après, il y a des variations suivant quel type de prédateur ils ont. Donc, par exemple, les vervets sud-africains, ils ont les babouins aussi comme prédateurs. Donc, c'est une modification du prédateur terrestre avec une autre intonation. Et puis, ils en font un encore un peu varié du babouin pour l'homme. Voilà, ils ont cette possibilité de modifier des cris pour donner d'autres significations et que les membres du groupe sachent.
Erika Vandeval assiste régulièrement à des scènes cocasses.
J'étais une fois en train de préparer une expérience et tout d'un coup, des cris de prédateurs terrestres super forts. Tous les singes me disent « Ah, mais il faudrait que j'aille vite voir dans le lit de la rivière. Peut-être que je verrai un beau léopard ou un serval ou un train de passer. » Et puis en même temps, « Ah, mais je suis plein en train de mettre en place cette expérience. J'aimerais la faire. » Et tout d'un coup, je vois Jabu, c'est un gros chien qui débarque, qui m'avait suivi. Et bien sûr, ils avaient réagi comme si c'était un léopard. Mais un autre jour, j'étais en train de préparer une expérience de nouveau, et cette fois, des cris de serpent, vraiment très forts. Et je les vois où ils regardent, c'était loin de moi, mais après, je vois qu'ils regardent de plus en plus vers ma direction. Je dis là, ouh, mais il a l'air d'avancer vite, ce serpent. Et en fait, c'était, on a un chien, je crois que c'était quel en français, c'est chien saucisse. Et c'était la période où on a les hautes herbes qui font presque un mètre de haut. Et du coup, on voyait qu'une petite queue qui avançait au milieu des herbes. Et puis ça, bien sûr, même si c'était un chien aussi, ils l'ont classé en serpent.
Les vervets peuvent aussi faire des jugements à l'emporte-pièce. Mais que nous apprend-elle cette culture animale? En quoi est-elle différente de la nôtre? Qu'est-ce qu'on a de plus, nous, les humains?
La culture cumulative. Donc, en plus de se transmettre des connaissances, on arrive à s'appuyer sur le savoir de l'autre pour la rendre plus complexe d'une génération à l'autre. Et ça semble vraiment pas être le cas. Ils se transmettent des choses, mais ils vont pas modifier encore l'outil d'une meilleure manière et le rendre plus performant. Donc, ça semble vraiment se plafonner assez vite. Et après, bien sûr, tout le côté pédagogie et de vraiment savoir, prendre en compte quelle est la connaissance de l'autre pour adapter ce qu'on lui transmet.
La culture cumulative est le propre de l'humain, pour le meilleur comme pour le pire. Dans mon groupe, il n'y a pas de bêta, mais que des alphas. Moi, c'est Uma Camis. Et à mes côtés, Grégoire Moll, co-producteur qui ne redoute ni les serpents ni les léopards. David Golan, réalisateur et chasseur de vilains parasites, toiletteur de haute gamme de sons. Jérôme Nussbourg, qui dorlote ce podcast et le revêt d'un habillage musical tout doux. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou Play RTS. Si vous avez envie de plonger dans un autre sujet avec moi, envoyez-moi vos suggestions sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Et puis, ces singes vervets, ils sont sensibles à la beauté?
Alors ça, c'est une grande question. Je pense que cette sensibilité à la beauté, c'est un peu un luxe qu'on peut se permettre quand tous nos autres besoins sont bien remplis. Et je sais pas si un singe qui est entouré de prédateurs, qui doit être stratégique pour faire ses coalitions au sein du groupe et garder son réseau pour trouver assez à manger, est-ce qu'il a le temps de... Après, le matin en hiver, ils ont froid pendant la nuit, donc ils se chauffent en haut de l'arbre. Ils sont tous ensemble à regarder le soleil se lever. Et là, on se demande, est-ce que, en fait, ils trouvent ça beau? Mais on peut pas vraiment leur poser la question. Par contre, je suis en train de développer des expériences avec des écrans tactiles. Et la méthode commence à bien marcher. Et une fois qu'on aura ça, on pourra peut-être les interroger en leur mettant deux tableaux différents ou un point rouge et voir qu'est-ce qu'ils choisissent. Est-ce qu'ils sont attirés? Ils regardent plus longtemps l'œuvre d'art. On pourra peut-être voir est-ce que répondre à certaines questions de cet ordre-là sur des singes sauvages.